Salut, bonjour les Hirtzuhörer von unserer gemütlichen Welle Radio Judaïka. Un peu d'alsacien comme introduction, ça fait du bien dans le dedans de soi, la Muttersprache. D'ailleurs, notre invité, que vous connaissez tous, me dit toujours que l'alsacien, c'est la même prononciation que le yiddish. On verra ça pendant toute l'émission. Alors, qui est ton invité surprise, Müller? Ben, c'est une surprise. Chères grandes oreilles, je vais vous le présenter. Les micros sont ouverts. Thomas est dans son aquarium aux manettes. Lance le générique, mon cher Thomas.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Ben, j'ai fait une place à... Ben, on vous le présente plus, tout le monde le connaît. D'ailleurs, ici, c'est sa maison. Bonjour ou salut Jacques Zucker. Wie geht's depuis hier soir?
Ça geht's gut et me retrouver en face de toi ce matin avec une nuit qui a été fortement agitée, mais tellement, tellement belle. Puisque tu étais présent aussi, et je peux le dire, j'ai été fait président d'honneur des cafés business sur le plan national.
Et international ?
Oui, et international, et c'est une récompense.
Bon, on en parle un peu plus tard, hein, parce que voilà, on va en parler. Mais d'abord, il y a une question qui me taraude, qui me tenaille, on en a déjà parlé plusieurs fois. Est-ce que l'alsacien ressemble au yiddish ou l'inverse ?
J'ai appris le yiddish parce que mes parents parlaient le yiddish entre eux.
À la maison.
Et quand je suis parti en Israël, je ne parlais pas l'hébreu encore. Et donc je parlais le yiddish, je comprenais le yiddish puisque je suis ashkénaze. Et donc j'ai pu me débrouiller. Et quand je suis arrivé ou nommé à Strasbourg... Il y avait beaucoup de mots qui ressemblaient au yiddish, et je me suis dit, mais c'est super.
Donc tu comprenais même les Alsaciens?
Absolument.
Et est-ce que tu as un mot, que tu te souviens d'un mot, par exemple, Ichwil Essen, on dit comme ça en yiddish?
Irwil Essen.
Ah ben c'est pareil, quoi.
Oui.
Et aller dormir, c'est comment, en yiddish?
En yiddish, c'est Schlofen.
Ah, Schlof, ich geh Schlof.
Yeah.
Tu vois, donc on se comprend, hein, tous les deux.
Oui.
Mais on va pas parler qu'en yiddish ni en alsacien.
Non.
Alors, revenons un petit peu à tes débuts. Tu es grenoblois, je crois. Hein.
Je suis né à Grenoble.
Waouh.
J'ai fait mes études à Grenoble, où j'ai pas terminé, puisque je suis parti comme volontaire à la guerre des Six Jours. Et je suis pas revenu à Grenoble, j'étais resté en Israël.
Rappelle-moi un petit peu le Grenoble. Quels sont tes souvenirs de Grenoble? C'est quand même une ville un peu tristoune, industrielle, non?
Non, c'est une ville extraordinaire, située dans une cuvette, entourée de montagnes, les plus belles stations de sport d'hiver,
ouais, c'est
que
vrai.
Sont l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, Champs-Rousse, ouais. Saint-Nizier, Villard-de-Lans. Et on partait en un quart d'heure, on était dans une station de sport d'hiver.
Oui, ça c'est quand même extraordinaire. Ouais. Et en ce moment, c'est la période des noix, non? On ramasse des noix?
Absolument.
Qu'on achète ici au marché de Strasbourg.
C'est le gratin dauphinois,
c'est ça.
Le marché que maman faisait tous les jours, puisqu'elle travaillait elle achetait que des produits frais, puisqu'elle avait le temps.
Il y a du bon fromage aussi là-bas.
C'était la mama juive qui faisait à manger pour ses enfants.
Et c'était quoi le plat un petit peu que tu mangeais le repas juif, c'est quoi par exemple que ta maman faisait?
Gefilte Fisch.
Was ist das?
La carpe farcie.
Carpe frite alors comme
oui, absolument.
Ah, ouais.
Et la carpe farcie.
Farcie.
Les boulettes de pain azim.
Qu'on
bouillon.
Qu'on mettait sous les aisselles.
Tout à fait, oui, oui. Et j'ai fréquenté la communauté juive à Grenoble, où j'ai commencé à apprendre l'hébreu. Ah, c'était à l'époque où
importante aussi importante qu'en Alsace.
C'était très importante. Ah, ouais. Mais à l'époque, c'était que des Ashkénazes.
Mm-hmm.
Et puis sont arrivés les Séfarades. Je le dis avec grande fierté, puisque j'ai mon neveu qui est président de la communauté juive À Grenoble.
À Grenoble, ouais. Et alors, tu parlais tout à l'heure des stations de ski. Ça veut dire que tu skiais à l'époque? Tu faisais du ski? Tu étais sportif?
Si je ne faisais pas le ski à Grenoble, c'est qu'il devait y avoir un problème. Mais j'avais une autre passion, c'était le football.
Ah bon? Ah, oui. Tu étais footeux? Tu jouais au foot?
J'étais footeux, oui.
Et
oui,
avec
oui.
Quel, peut-être, quoi, numéro 10?
J'étais, comme tu vois, un bourrin. Donc, j'étais arrière-gauche. et j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs.
Qui, par exemple, Mbappé?
Oui, Mbappé, oui. Non, on n'en était pas là. On avait un grand club de foot à Grenoble, le FC Grenoble, où je me suis payé mes premières chaussures de foot chez le président, parce qu'il avait un magasin de sport. Voilà, c'est tous ces souvenirs qu'il y a eu.
Mais je crois aussi que Grenoble ou Chambéry sont connus surtout pour le hockey sur glace. Il y a des bonnes équipes là-bas.
Et pour le rugby.
Et pour le rugby,
Il y avait, une grande équipe à Grenoble. Ils ont été champions de France en 1954 avec des grands joueurs qui étaient surtout italiens, puisque tu sais qu'il y a une grande colonie italienne.
Oui, c'est vrai.
Les Lafranchi, le De Gregorio et tout. Et j'avais un super copain qui était le fils du rédacteur en chef du Dauphiné Libéré, qui s'appelait Christian Nicolo, qui jouait au rugby et qui était aussi dans l'équipe de France d'athlétisme.
D'accord. Donc le sport, c'est quelque chose d'important pour toi, t'as grandi avec le sport.
Absolument.
Et c'est pour ça qu'on se côtoyait un petit peu à l'époque, on se voyait au Racing ou ce genre de choses.
Absolument.
Alors, parle-moi, tu m'avais dit qu'à 18 ans, tu voulais devenir commissaire de police, c'est vrai?
Oui, j'ai commencé droit à Grenoble et j'avais une passion. C'était courir après les bandits.
Voilà, tu avais du boulot.
Oui, à Grenoble, actuellement, oui, il y a du boulot.
Partout,
à l'époque, c'était pas comme ça, mais je voulais être commissaire de police.
Donc, et pourquoi tu avais envie de faire ça?
Parce que je suis un homme de justice.
Ouais.
Je suis,
on peut dire que t'es Zorro, un peu Zorro, c'est les années Zorro que t'as regardé à la télé.
Tu peux m'appeler homme de Zorro.
Mais moi aussi, c'est ma génération.
Je n'accepte pas les gens méchants, l'injustice et tout. Et puis, la vie, dans la vie, il n'y a pas de hasard, est arrivée la guerre des six jours et je suis parti comme volontaire.
T'avais quoi, 18 ans à ce moment-là?
Absolument. Et j'ai fait l'expérience kibboutz, qui a été ma plus belle aventure.
Pourquoi?
Parce que tu travailles, tu manges. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et puis, il faut d'abord être accepté par les fondateurs du kibboutz. Donc, c'est là où j'ai appris l'hébreu. Parce que je faisais travail, école, et puis vivre en communauté.
Oui, c'était une grande communauté, les kibboutz.
Oui, c'était le socialisme.
Dans le nord de l'Israël, tu étais où?
Alors, une ville dont on parle beaucoup, Natania, qui était le Saint-Tropez d'Israël. Et moi, j'étais à 5 km de cette ville-là, dans un kibboutz qui était relativement riche, parce qu'ils avaient une très grosse usine de plastique. Ils faisaient de l'élevage de poules aussi. Donc, j'ai 4 heures du matin, je me prenais 5 poules dans la main droite, 5 poules dans la main gauche, et on les chargeait dans leurs cagettes, partir à l'exportation et tout. J'ai connu tout ça.
Mais moi, j'ai connu aussi un kibboutz avec Lionel Corte, qui était un journaliste de France Télévisions, avec qui je suis parti pendant 5-6 jours de Eilat jusque dans un kibboutz dans le nord, le nord de l'Israël. Et on a passé, on est remonté le désert jusqu'à Masada. Et on a vécu là pendant une dizaine de jours
faire des tournages. C'est l'endroit le plus touristique.
Ouais, c'est vrai.
Avec la vue sur la mer Morte.
Ouais, c'est ça.
On
était là-haut avec un téléphérique.
Tout à fait. Moi, je l'ai fait à pied.
Et puis,
au lever du soleil.
Et puis, on s'est baigné dans cette, là où il y a plein de poissons.
La mer Morte.
C'était magnifique. Où le fessier ne descendait jamais. Tu ne pouvais pas nager.
Tout à fait. Il y a là un des plus beaux kibboutz qui s'appelait En Gedi, que j'ai aussi connu.
Tu as grandi, tu dois tout au kibboutz, en fait, ce que tu dis à l'instant. Tu as fait beaucoup de choses, tu as appris beaucoup de choses.
J'ai appris le savoir-vivre, j'ai appris le travail, j'ai appris...
Et le savoir-faire.
Oui, de ce que t'es l'amitié.
Ok, on va se reposer un tout petit peu les oreilles. On va écouter une première petite musiquette d'un grenoblois. On en reparlera un peu tout à l'heure. Vas-y, mon cher Thomas.
Ah, te voilà, toi. Je peux pas bien dire que je te reconnaisse. J'étais vraiment ma fleur de jeunesse quand tu nous as laissé tomber. Laisser tomber. Mais pour le peu que je me rappelle de la tête que tu avais, ça t'aurait plutôt profité, ce petit séjour à l'étranger, ce petit séjour à l'étranger. Mais j'ai changé, moi. Sûr, tu dois me trouver bien grandi. Je t'ai pas donné beaucoup de soucis. Mais cependant, faudrait pas croire que j'ai pu pousser sans histoire. Que j'ai pu pousser sans histoire.
Alors, Jacques, tu es larmoyant. C'est quelque chose qui te rappelle des bons et des mauvais souvenirs. Georges Chelon.
Oui, c'est toute mon enfance, puisque je les ai vécues avec lui. J'ai. Comment veux-tu que je puisse oublier sa première chanson qui était Le Père Prodigue ?
Ouais, il en a vendu plus d'un million de disques. Hein, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Hein.
Tout à fait.
Dans les années 66,
J'ai fait du camping avec lui.
Ah ouais.
Et pour gagner notre argent, on faisait les poubelles. On ramassait les poubelles du camping. Donc,
parce qu'il y avait quelque chose dans les poubelles encore période.
Il était aussi footballeur. Il a même voulu être professionnel.
Ah ouais. Ouais.
Et donc j'ai passé des moments incroyables. J'étais son porte-guitare à Paris.
Ah ouais. Tu étais au lycée Champollion avec lui à Grenoble. Vous étiez ensemble au lycée.
Ouais.
Et tu habitais dans le même HLM.
Dans le même immeuble.
Même immeuble.
Ouais.
Et alors, comment il était dans la vie, ce monsieur, dans ta jeunesse ?
Extraordinaire, il était brillant.
Il a fait sciences politiques, hein, je crois.
Absolument.
Ah, ouais.
Et la chanson, c'est pour ça que ça me touche.
Ouais, ouais.
C'est son père qui l'a abandonné. Donc, il a vécu avec sa maman, qui était une femme adorable. Et il a gagné un concours. C'est là qu'il a commencé avec Adamo.
Avec Adamo,
Il est toujours copain, parce qu'Adamo jouait au foot aussi. Donc, moi, je les ai revus à Paris et on me dit toujours, mais comment tu fais pour connaître toutes ces stars et tout ? Ben, parce que j'étais à Paris, au showbiz, oui.
Mais t'as connu aussi Renaud, t'as connu Fugain, il est aussi
Fugain,
le Grenoble.
On était ensemble, c'est un copain d'enfance et je peux le dire sans prétention, j'étais directeur du Novotel à Fegersheim. Et le Big Bazar s'est terminé à Strasbourg.
Ah, et c'est pas là qu'ils ont chanté au Kamerzell, non ?
Absolument.
Ah ouais, tu vois. Ouais.
Et c'est là que je l'ai retrouvé. Et bon, je peux raconter l'anecdote.
Vas-y, je t'en prie.
Donc, le Big Bazar est arrivé avec le bus. Lui, il est arrivé et en disant Michel Fugain. Donc, il y avait toute la troupe. Et j'avais prévenu les réceptionnaires en disant, quand il arrive, vous m'appelez. Puis j'ai entendu sa voix. Donc, je suis sorti. Et puis, je lui dis « Bonjour Michel ». Il me regarde et il me dit « Pourquoi on se connaît ?» Je lui dis « Oui, si je te donne mon nom, je pense que tu vas… » Et il me dit « Vous êtes qui, monsieur ?» Et je lui dis « Jacques Zucker ». Alors, il a posé son sac, il m'est tombé dans les bras.
Ah, ouais.
Et puis, on ne s'est plus quitté.
Ah ouais, c'est bien. Voilà. Ouais. C'est un monsieur bien, ouais, qui a fait des études, qui était dentiste, hein, je crois, avant d'être chanteur.
Médecine. Médecine. Généraliste.
Ah, d'accord. Alors, raconte-moi quand même comment tu es venu à Strasbourg. C'est l'amour qui t'a ramené ici ? C'est parce que tu as connu ta femme ou pourquoi comment ça se fait que tu es alsacien ?
C'était pas du tout l'amour. J'avais quitté Israël pour... j'étais au Hilton à Tel Aviv, puisque j'ai fait l'école hôtelière en sortant major de promotion. Et j'ai eu le choix de choisir l'établissement où je devais commencer mon job. Et j'ai choisi Hilton, parce que Hilton était le sommet de l'hôtellerie. Et j'ai été pris.
Ici à Strasbourg, alors ?
Oui.
Place Bordeaux, là, c'était le...
C'était non, non, c'était Tel Aviv.
Excuse-moi.
Oui, oui.
Ah,
ouais. Et j'ai été engagé, j'ai appris à travailler comme eux, ils voulaient, puisqu'on m'a dit, votre diplôme, vous le mettez au mur. Vous commencez à travailler comme nous, et c'était au début, les débuts du tourisme en Israël. Et tout ça. J'ai vécu quelques années extraordinaires, et puis il a fallu que je rencontre une hôtesse de l'air d'El Al, sur les Champs-Élysées de Tel Aviv, pour tomber amoureux. Elle était, alors je le dis, c'était la fille Trigano l'époque, de la famille, et très riche et tout, et elle ne voulait pas se marier en Israël, elle voulait se marier en France. Donc,
Mais c'était où, à Grenoble ?
Non, c'est à Paris. Ah. J'ai eu un transfert Tel Aviv-Paris, Hilton-Paris, et puis quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai tout fait, elle ne voulait plus se marier. Donc je me suis retrouvé avec mes valises, et il a fallu tout reprendre, et je ne suis pas retourné en Israël, et c'est là que j'ai commencé ma carrière en France.
En France, et puis... Voilà. Et alors, tu es alsacien de cœur, on peut le dire. L'Alsace, c'est...
Ce n'est pas alsacien de cœur, puisque j'ai eu le bonheur d'avoir été nommé ambassadeur d'Alsace VIP.
Et comment t'as fait ? T'as trouvé ça dans un paquet de Bonux, ou comment t'as fait ?
Ouais, j'ai payé... j'ai appris que... En sachant que j'étais pas alsacien... Que j'étais nommé, il y a 5 personnes qui ont été nommées, dont le chef exécutif de l'Élysée, le grand pianiste Sébastien Tronley, avec qui je fais le festival de Boogie Boogie, et j'aime l'Alsace, j'aime Strasbourg.
C'est quoi ça veut dire quoi ton titre d'ambassadeur ? Ça veut dire quoi ? Tu fais la promotion de l'Alsace à l'extérieur, à l'international ?
Je représente l'Alsace partout où je vais, sur le plan national et sur le plan international.
En faisant quoi ? Des discours ? En rencontrant des gens ?
Non, quand je suis dans un hôtel, là j'étais parti à Minorque, dans un super hôtel, en disant voilà, je suis nommé. J'ai été nommé ambassadeur d'Alsace et tout. Et faire des échanges, faire venir les gens à Strasbourg, être reçu par les membres du tourisme. Hein, et j'ai la chance d'avoir comme ami la présidente et son directeur général, qui était là d'ailleurs hier à la réception.
Marc Lévy. À l'ISEG,
oui. Tout à fait.
Ouais, j'ai vu ça.
Donc voilà...
Hein, et tu as aussi une médaille du tourisme, non ?
Je la reçois. Le 17 décembre, je reçois de la part du ministère des Finances et du Tourisme. J'ai appris ça parce que je n'étais pas au courant.
Où tu t'arrêteras, dis-moi, Jacques ? Tu t'arrêteras
À 77 ans, être reconnu, ça fait quand même plaisir.
Ouais, ça fait plaisir. Écoute, on va écouter une petite musiquette de Adamo, tu m'as demandé, on va l'écouter. Ça va te faire plaisir aussi. Ah, tu le savais déjà ?
J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmure paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes.
Alors Jacques, cette chanson, ça évoque la paix? Qu'est-ce que tu en penses ? Là aussi, tu es larmoyant parce que ça te rappelle des souvenirs. Ça te rappelle des souvenirs d'Adamo, Jérusalem, l'Israël.
Adamo, oui, puisque j'ai eu la chance de jouer au football avec lui.
L'as déjà dit tout à l'heure.
Oui, absolument. Et moi, je n'ai pas connu la période de guerre. Hein, au contraire,
Tu veux dire les 6 jours ?
Oui. Ouais. Où j'étais parti comme volontaire, puisque tous les hommes qui étaient dans les kibbutz sont partis à la guerre, et il a fallu remplacer, il a fallu les cultures, l'élevage et tout ça, donc continuer à travailler. Et puis, je suis fils d'un gros industriel, et j'ai vu que il fallait travailler, il fallait manger. Et j'ai une anecdote à te raconter.
Ouais, vas-y, je t'en prie.
Je faisais la vaisselle parce qu'il y avait des plannings.
Attention au micro.
Chaque semaine, il y avait des plannings où il y a ceux qui faisaient la vaisselle, il y a ceux qui débarrassaient les tables et tout, parce que c'est en communauté. Tout le monde mange ensemble tout. Et puis je fais la vaisselle, la plonge, avec une personne à côté de moi. Salut, on discute et tout. Et il me dit, tu viens d'où? Je dis, de France. Et moi, je lui dis, et vous êtes membre du kibboutz? Il me dit, oui. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faisiez? Il me dit, je suis ambassadeur.
Waouh.
Et moi, je me dis, il plaisante, là. Oui, j'ai été le premier ambassadeur d'Israël en Roumanie.
Waouh.
Et je faisais la vaisselle avec lui.
Il n'y a pas de faux métier. Hein.
En tant que Français, entendre dire qu'un ambassadeur, il fait la plonge.
Ouais, c'est génial.
Et voilà ce genre d'aventure que j'ai vécu.
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une rencontre?
Il n'y a pas de hasard.
Nous, on s'est rencontrés il y a 30 ans à peu près à la télé, à France 3.
Une quarantaine d'années.
Mmh. Et on se connaît depuis... Oui, c'est vrai. Et on s'est aussi vu... Raconte un peu l'anecdote. On s'est vu un jour dans le désert, au Niger.
Oui, c'est vrai que les auditeurs vont dire, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait, cet homme-là?
Il a fait plein de choses. C'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui.
J'ai fait plein de choses. On m'a dit, Jacques, faut partir au Niger, à Agadez, pour ouvrir deux hôtels.
Waouh!
Parce que le Dakar s'arrêtait à Agadez. Il manquait d'hôtels. Et il se trouve que la personne qui m'a fait partir est une personnalité strasbourgeoise.
Ouais.
Elle était d'ailleurs là hier. C'est celui qui a monté la fondation Simone Veil. Et,
que tu as bien connu aussi.
Absolument. Ouais. Et il me dit, Jacques, je t'envoie au Niger pour ouvrir les deux hôtels. Faut faire les vaccins, faut tout faire.
Ouais, je me souviens, faut faire tout ça. Ouais.
Et je suis parti avec sa fille. Je peux nommer son nom.
Mm-hmm.
Il s'appelle Monsieur Jean-Louis de Valmiger, qui est aussi un fou de Strasbourg. Et on a ouvert les deux hôtels. On a reçu le Dakar, toute l'équipe de France 2. Et dans cette équipe, il y avait un Alsacien qui s'appelait André Muller, et je l'ai côtoyé, c'est moi qui ai pris la parole le premier. Je lui ai dit, on est de la même ville, comme Strasbourg, Strasbourg et tout. Et puis, comme tu sais, on ne s'est plus quitté. Et tu étais à l'époque avec Gérard Holtz.
Ouais, avec Gérard, ouais. J'ai fait 8 Paris-Dakar avec lui.
Ouais, je sais.
Ouais.
Et Gérard Holtz était devenu aussi copain.
Ouais, un copain. Et puis tu nous as quand même permis de notre première douche
de vous laver
dans ton hôtel de luxe.
Ouais. Vous êtes les premiers à avoir goûté de l'eau fraîche.
De l'eau fraîche après trois semaines de crasse. Et
absolument.
En fait, je ne dis pas comment était la douche.
Elle absolument.
Et j'ai mis tous mes habits sur le balcon.
Ouais.
Et
je vais même te raconter une autre anecdote. J'avais dans mes valises une petite machine Reneka. Les machines à café.
Ah, café, ouais.
Ouais. Et j'ai servi de l'expresso en plein désert à Agadez pour l'équipe de France 2 et tout ça. Il y avait Céline Giraud aussi.
Ouais, Céline qui était une super collègue.
Ben voilà.
Amie, on est amis, on se connaît très très bien, Céline. On était pendant 3 mois à Sydney, au JO ensemble. Ouais.
Bon, tu sais que j'ai aussi fait les Jeux Olympiques d'Albertville avec les Étoilés d'Alsace.
Ouais, je me souviens. Ouais.
J'ai vécu des choses extraordinaires. Il y a un regret, c'est que je n'ai pas eu la chance de faire un Grand Prix de Formule 1.
Ouais.
Mais ça arrivera.
Après, dis-moi, tu es aussi grand-père, parce que le temps file, on est bientôt à la fin de l'émission. Raconte-moi, tu as 2 petits-enfants merveilleux et ils sont à l'autre bout du monde.
Oui, j'ai 2 petits Japonais. Puisque David est marié avec une japonaise. Ça fait 15 ans qu'il vit au Japon.
À Tokyo ?
À Tokyo, oui. Mmh. Il est numéro 2 d'une banque suisse.
Wow. Et donc il y a toujours à manger dans le frigidaire, j'imagine.
Oui, oui, un peu beaucoup. Et il vient chaque année, donc au mois de juillet. Et quand je lui dis, David, tu reviens en France ? Il me regarde.
Ah ben non, et il me dit, faut être fou quoi de revenir.
Papa.
Ah non, c'est tellement rigoles, beau là-bas.
Tu voilà. rigoles. Mon ami les connaît, il les a vus. C'est deux petits Japonais.
Et c'est quoi le prénom de tes petits-enfants ?
Ils Alors, ont... la petite s'appelle Nina.
Ouais.
Et le fils, mon petit-fils s'appelle Lucas.
Lucas, donc des prénoms pas japonais. Quoi,
non,
prénoms,
disons, mais... Ouais.
Mais tu as l'occasion d'y aller de temps en temps, leur rendre visite ?
J'y étais au mariage.
Ah ouais, ok.
Il y a une quinzaine d'années.
C'est beau, Tokyo. Hein. Ça grouille de partout. C'est une ville, une mégapole.
C'est paradisiaque.
J'étais deux fois en tournage là-bas aussi, au Japon. On était à Ginza quand il y avait le marché de Noël. Et ouais, on a fait plein de choses là-bas. C'est un endroit merveilleux, quoi. Surtout à cette période où les arbres sont flamboyants, tout ça. C'est d'une beauté, ouais.
T'es dans un monde qui n'est pas la France.
Ouais, c'est bientôt la fin de l'année, donc bientôt Noël. Tu fêtes ça comment ? En famille ?
J'en ai tellement fait.
T'en as tellement fait, ouais.
Que si je pouvais éviter Noël, ça serait absolument génial. Parce que c'est devenu...
C'est devenu du business, quoi, du commerce.
Et malheureusement, tu sais, j'ai fait le lancement du marché de Noël avec Jean-Jacques Zell.
Ah oui.
Regretté, qui était mon ami.
Je sais.
Et là, on a perdu beaucoup.
Je sais bien. Et alors, dis-moi un petit peu, on est bientôt en 2025. Comment tu continues 2025 ? Tu as toujours plein de petits déjeuners avec des hommes d'affaires. Tu es à l'ISEG toujours pour la communication, tout ça.
As-tu non, aussi. Oui, j'ai déjà beaucoup de choses qui sont planifiées. Je vais te dire... Mon plus grand plaisir, c'est d'avoir les élèves qui sont extraordinaires.
À l'ISEG.
Ouais.
Bah, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusque à nos micros de la radio que tu connais bien. C'était quand même un habitué d'ici. Mmh. On va remettre ton générique de fin avec Inch'Allah. Tu vas voir.
Le chemin mène à la fontaine. Tu voudrais bien ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah.